Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent. Tel le printemps et ses bourgeons, l'inspiration s'ouvre et délivre ses parfums à qui veut les recevoir. Un semblant de quiétude, une musique en sourdine, cache un véritable travail de solitaire réuni dans une troupe de théâtre. Telles des abeilles, il faut les approcher pour les entendre créer. Le grincement d'une plume, le bruissement de voix répétitives, une mise en scène. Le Millennium du service culturel de l'île d'Abo a proposé une résidence de création au théâtre d'Anoukis. Nous allons essayer de déshabiller le décor et mettre à nu les personnes qui font la vie d'une troupe de création et de talents gourmands. Nous recevons aujourd'hui Baija Lidawan, Eurial Collet-Barquero et Cédric Daniello. Merci à vous trois d'être avec nous à cette émission et de vous livrer à ces questions croisées. Baija Lidawan, d'un baccalauréat L avec option théâtre russe, passant par Hippocagne-Cagne avec l'histoire de l'art russe, vous devenez comédienne, chargée de communication, assistante à la mise en scène et assistante d'administration et de production. Et est-ce le fil droit pour créer le théâtre d'Anoukis et en être le metteur en scène?
Je pense, j'espère, c'est le fil droit dans le sens où j'ai toujours voulu faire du théâtre, très tôt. Pourquoi le russe? Parce que je m'intéressais aux auteurs de théâtre russe, notamment Tchekhov, notamment Stanislavski, notamment Mayakovsky qui m'intéressaient. Et je me suis du coup naturellement un peu tournée vers la langue russe. Et par la suite, m'intéressant au théâtre, du coup j'ai fait un parcours théâtre, en option lourde théâtre. Et voyant, travaillant avec des compagnies, je me suis intéressée à l'administration. Et à la communication, en fait, à la vie d'une compagnie dans son ensemble, pas uniquement dans ses aspects qui sont les plus visibles, qui sont les aspects de création. Mon idée de départ, c'était de me dire qu'une compagnie perdure et se structure grâce à ses talents artistiques, mais qu'une partie peut être gâchée, dans le sens peut être effritée, si derrière il n'y a pas une structuration assez forte, assez solide, qui a les reins pour pousser au-delà et pour perdurer, au-delà de l'émiettement, de l'usure et de l'envie première. Donc voilà, dans mon parcours, j'ai tenté de faire cohabiter la nécessité de pourquoi faire du théâtre, de quel est le sens qu'on peut en donner aujourd'hui, avec comment structurer au mieux.
Alors Baija, comment vous est venu le nom du théâtre, le nom de la compagnie, du théâtre d'Anouki?
Alors, le théâtre d'Anoukis, on cherchait... C'est toujours assez compliqué, en fait, de trouver un nom, parce qu'on sait que c'est ce qui va perdurer, c'est ce que les personnes vont retenir, enfin, on l'espère. Et on cherchait avec Maud Hardier, du coup, la comédienne avec qui j'ai cofondé le théâtre d'Anoukis, quel était le... On est parti un peu des symboles, des valeurs, de qu'est-ce qu'on voulait qui transparaît à travers le nom. Qu'est-ce qu'on voulait que ça évoque? Alors, plusieurs choses. On voulait du coup être placé sous le nom d'un parrainage, un peu d'un parrainage symbolique. On s'intéressait fortement aux mythes fondateurs comme un peu une sorte d'épopée, une sorte d'un ailleurs dans le temps. Et on voulait que ça soit un nom qui évoque un ailleurs également géographique, un endroit lointain. Alors, on a essayé de chercher plein de noms et Anoukis, c'est une déesse égyptienne, alors peu connue. Malheureusement une déesse liée à la fertilité, liée au Nil. Et nous, ça nous a intéressé, l'image de ceux qui croient, de ceux qui grandissent et de ce qui permet à la vie de perdurer, de continuer. Voilà. Et ce symbole, du coup, pour nous, nous a parlé en tant qu'artiste et on a décidé de le garder.
Et votre théâtre a été créé il y a combien de temps? C'est une toute
Alors,
jeune...
il est tout récent, oui, il date de juillet 2012. naissance officielle du théâtre d'Anoukis au sein de la coopérative d'activité Clara.
Alors, comment fonctionne une coopérative de théâtre? C'est quoi la différence entre...
Alors, ça fonctionne très bien. En fait, la plupart des compagnies sont structurées sous forme d'associations, sous forme associative. La compagnie de théâtre la plus connue sous forme coopérative, c'est le Théâtre du Soleil, qui est une SCOP, donc qui est une société coopérative ouvrière de production. Nous, ça nous a intéressé en fait de partir sur une coopérative en partant du principe qu'au sein de la structure, à la base, c'était des travailleurs, c'était des personnes qui souhaitaient se professionnaliser. Et l'association, à la base, ce sont des bénévoles qui souhaitent se mettre ensemble au service d'un projet, mais qui gardent un statut de bénévole, d'où les bureaux, d'où les CA, d'où l'Assemblée Générale des bénévoles. Et nous, à la base, on ne voulait pas être bénévole, on voulait, dès le départ, être reconnu en tant que professionnel, et que toutes les questions de gouvernance, de comment allaient se prendre les décisions, de qui décidait, de qui avait le pouvoir, de qui avait les responsabilités, etc., on s'est dit bah, il faut les poser dès le départ, même si quand on est deux, il n'y a pas beaucoup de conflits, en règle générale, ça se traite assez facilement. On s'est dit, si dès le départ on anticipe ce genre de choses, ou en tout cas on y pense, on espère du coup en faisant ça semer une graine sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se structurer sous forme coopérative.
Et comment vous retrouvez-vous? Vous êtes au départ deux, oui, comme vous l'avez dit. Et ensuite, comment ça se passe? On vient frapper à la porte ou c'est vous qui allez voir?
C'est souvent nous qui allons voir, notamment au début. Alors comment est-ce qu'on passe de 2 à 15? Parce que maintenant, le théâtre d'Anoukis, c'est une quinzaine de personnes qui sont employées et qui sont fédérées autour du projet Route d'Antan que nous menons actuellement. Alors il y a des personnes qui ont été recrutées sous forme de stage. Voilà, recrutement des artistes. Il y a des personnes qui ont été recrutées par cooptation, parce qu'on avait déjà travaillé avec telle ou telle personne sur tel projet et qu'on appréciait sa patte, qu'on appréciait sa façon de travailler, qu'on appréciait son esthétique. Et il y a des personnes avec qui on n'avait jamais travaillé et dont on connaissait les œuvres, et on s'est payé le culot d'aller frapper à leur porte en disant bah voilà, on débute, on commence, mais on apprécierait une collaboration artistique, et c'est le cas de Rial Colet-Barquero.
On vous a rencontré dernièrement au Millennium, donc à l'île d'Abo, où il y avait une lecture. Et comment vous sentez-vous en résidence? Et est-ce que vous avez des enjeux à relever?
Alors, on se sent très bien en résidence, avant tout. Surtout au Millennium, parce que l'équipe nous reçoit vraiment chaleureusement et qu'on est là tout au fil de la saison. Donc ça permet de tisser des liens, de mieux se connaître, d'échanger avec l'équipe qui est des permanents, voilà, du service culturel de l'île d'Abo. Et non, heureusement, il n'y a pas d'enjeu dans le sens où il n'y a pas un attendu, de création millimétrée. On a le temps de chercher, on a le temps d'essayer, on a le temps de se tromper. Voilà, on a ce temps de recherche qui est, moi, je trouve un luxe nécessaire à la création. C'est-à-dire que la création, c'est plus compliqué que la production. La création, c'est un temps de recherche. Et c'est pour ça que du coup, le projet avec le Millennium s'est très bien passé et continue tout au long de la saison. Ils nous ont du coup également ouvert la possibilité de jouer un spectacle Barthalodrome le 5 avril. Voilà, c'est une confiance aussi qui est donnée à une jeune compagnie, et on apprécie fortement.
Vous avez eu aussi des actions à mener avec des ateliers, la création d'ateliers avec des enfants et d'autres personnes.
Oui, en fait, l'idée de Laure Gontier, donc, qui est la directrice du service culturel et donc du Millennium, c'était de faire du théâtre d'Anoukis des artistes associés au Millennium et associés de fait à toute la saison et à tous les projets mis en place par le service culturel. Ça voulait dire du coup des projets... des projets d'art plastique, des projets de photos, des projets graphiques, des projets avec des enfants, voilà, j'en oublie. Et ça, pour moi, ça enrichit à la fois un projet, une équipe, et ça donne du sens à ce qu'on appelle une résidence.
Bah, déjà, d'être en résidence, est-ce que cela change votre façon d'aborder le théâtre? Est-ce qu'il y a une méthode de résidence?
Alors, une méthode, je ne sais pas. Des méthodes, c'est sûr. Toutes les compagnies n'abordent pas les résidences de la même façon. Nous, on tient beaucoup à avoir ce qu'on appelle des résidences ouvertes, c'est-à-dire des moments où on peut échanger à la fois avec les organisateurs, mais également les habitants d'un territoire, et des moments d'échange et de rencontre. C'est notamment pour ça qu'on a organisé un débat en début de saison. C'est notamment pour ça qu'on a organisé un temps fort à l'île d'Abo. Enfin, voilà, c'est pour multiplier les temps de rencontre et faire en sorte que le spectacle final, ça soit l'aboutissement d'une rencontre qu'on a amorcée avant.
Et quand vous faites de la recherche, c'est avec les comédiens, avec oui. Toutes les personnes qui tournent autour de vous, ou bien c'est une partie de l'équipe?
Alors, toute l'équipe fait de la recherche, dans le sens où j'arrive jamais avec un projet ficelé en disant ça va être comme ça, les déplacements vont être comme ça, la scénographie, je l'ai pensé, les costumes sont finis dans ma tête, il faut que tu les fasses. Donc, je pars toujours de l'idée que quel que soit le poste qu'on a, il y a une partie de création. Que ça soit la régie lumière, que ça soit la création des costumes, que ça soit voilà, et que cette partie-là doit se faire en dialogue avec le metteur en scène et l'artiste qui est en face. Donc tous les postes ont de la recherche. Après, tous ne la font pas en même temps. Les comédiens vont faire la recherche ensemble, vont faire de la recherche ensemble. Il est possible, par exemple, je pense à la vidéaste, qu'elle va essayer des choses, me les envoyer, me dire, bah voilà, j'ai essayé telle et telle chose, on avait parlé de ça, mais j'ai aussi pensé à ça, etc. Et ça peut se faire sur un temps qui est différé des temps de résidence où les comédiens se réunissent.
Oui. Et parlez-nous un peu de votre inspiration. Vous avez monté des spectacles sur d'autres femmes, Toni Morrison, George Sand... Papoucha, pourquoi ces spectacles sur des femmes et uniquement des femmes?
Alors, il n'y a pas de choix à la base du théâtre d'Anoukis de travailler que et exclusivement sur des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes plumes et il y a pour moi des femmes qui ont marqué et l'histoire ou même la littérature et qui sont méconnues ou pas assez reconnue, notamment, ça commence à être le cas, mais notamment dans les saisons de diffusion artistique. Et voilà, certaines de ces femmes et de ces textes, avant tout, je m'intéresse plus à la création, à ce qui est écrit, mais enfin, voilà, il n'y a pas d'exclusivité, je ne sais pas comment ça s'appelle, il n'y a pas d'exclusivité à monter des femmes auteurs. Mais à l'heure actuelle, je vois, je note et je remarque qu'il y a peu de femmes auteurs montées et qu'il y a pourtant des grandes femmes auteurs et des grandes femmes tout court. Voilà.
Et pourquoi y a-t-il aussi peu d'auteurs femmes qui soient mises en scène?
Il y a peu de femmes en direction de lieu. Il y a un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le rapport Rennes-Pratt. Si je ne me dis pas d'erreur, il a d'ailleurs paru deux fois par le ministère de la Culture, et qui montre des chiffres. Il y a très peu de femmes, en fait, qui sont en direction de lieu. Et pour autant, les statistiques de femmes plasticiennes, de femmes écrivaines, de femmes musiciennes sont...
Sont en grand nombre ?
Tout à fait. Tout à fait. Il y a plus de femmes qui se présentent aux écoles de théâtre, il y a plus de femmes qui se présentent, qui sortent même des Beaux-Arts, etc., et pour autant, on les retrouve beaucoup moins, mais...
On les oublie.
On les retrouve beaucoup moins en poste de direction, très souvent. Il y a une sorte d'épuration par le haut.
Elle a débarqué dans la classe un grand courant d'air. Drôle de dégaine et drôle de race un matin d'hiver. Au beau milieu de la dictée, sur le ciel et la voie lactée, elle s'est assise tout près de moi. Derrière le petit bureau de bois, la maîtresse a dit, elle s'appelle Maria Susanna. Elle sera là jusqu'à Noël, puis elle s'en ira. Alors ça pouvait arriver au beau milieu de la dictée, une môme fagotée comme l'orage, fille du vent et du voyage. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie manouche? Quelques dents dans ta bouche? Oh, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme tes semblables, toujours indésirable. J'ai attendu à la sortie pour accompagner Cette môme qui m'avait pas souri, même pas parlé. Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivi la petite bohémienne, le long d'un boulevard tout gris, aux pauvres arbres rabougris. Trois caravanes sous la neige autour d'un grand feu, comme un immobile manège et des hommes entre eux, qui parlent une langue inconnue, étonnée que je sois venue dans la gadoue chercher du miel au pays des Romanichels. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie manouche quelques dents dans ta bouche? Oh, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme tes semblables, toujours indésirable. Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte, et tous ensemble ils sont entrés en fermant la porte. Elle a fait adieu de la main, et j'ai rebroussé mon chemin jusqu'à ma maison de ciment, où devait s'inquiéter ma maman. En me retournant, je vis encore derrière le rideau ses yeux noirs qui brillaient si fort, qui tenaient si chaud. À l'école, on n'a pas revu l'enfant né en terre inconnue. L'orage n'a plus éclaté au beau milieu de la dictée. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Est-ce de ta voix aperçue, à belles dents croquer ta vie manouche, que j'ai eu dans la bouche? Oh, ce désir si fort de partir et chanter pour ne pas trahir l'enfant qui va sa vie coûte que coûte sur l'infini des routes.
Couleur FM 97.1 avec le théâtre d'Anoukis représenté par Baïja Lidawan, par Eurial Collet-Barquero et Cédric Daniello. Nous venons d'entendre Michel Bernard dans Maria Susanna. Pourquoi ce choix, Baïja?
Alors, Maria Susanna, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, entendue en fait, chantée en famille. Ma meilleure amie l'a très souvent chantée et pour moi, ça fait partie un peu des musiques qui ont inspiré le projet Route d'Antan et qui ont inspiré ce pourquoi je me suis intéressée à la problématique Rome et Tzigane. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette chanson, c'est que moi, j'apprécie les chansons à texte qui racontent une histoire, en fait. Et voilà, il y a beaucoup d'images qui me sont évoquées, il y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve, notamment la thématique de la Seconde Guerre mondiale, qu'on retrouve dans le projet Route d'Antan. Et voilà, j'avais envie de vous la faire partager.
Baïja, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a la plume, l'écriture. Et nous avons rencontré, pour nous, une poétesse qui nous a vraiment séduites. Il s'agit de Rial Collet-Barquero. Et est-ce que c'est un DEA spécialisé en histoire de la mémoire et un DESS en gestion de projets européens en poche qui ont dirigé vos thèmes d'écriture? La mémoire, est-ce que vous écrivez pour laisser une trace, en fait, à cette mémoire?
Alors, je crois que mon parcours universitaire, il est déjà héritier d'une obsession dont j'ai moi-même hérité. C'est-à-dire, je suis petite fille de républicain espagnol, j'ai vécu avec, j'ai porté ça comme un sac à dos. Et j'ai fait donc, effectivement, je me suis spécialisée en histoire de la mémoire à cause de ça, sur la guerre civile espagnole. Et puis, j'ai continué à vivre avec. Et donc, cette mémoire, on la retrouve effectivement dans ce que j'écris, mais c'est pas forcément pour laisser une trace, en tout cas pas frontalement. C'est pas pour moi, écrire, c'est regarder le monde. regarder l'humanité, et dans l'humanité, il y a forcément la mémoire, l'histoire qui façonne le présent et qui prépare l'avenir. Et voilà, c'est la place de la mémoire dans mes écrits. Plus que vraiment moi, en tant qu'auteur, personnellement, qui me projette. C'est vraiment la thématique qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans l'identité.
Et vous écrivez beaucoup par ce fait-là?
Vous voulez dire sur la thématique de la mémoire?
Oui.
Ah oui, oui, ça a été... mais mon premier texte, j'en parle déjà sur... j'avais travaillé sur la précarité et donc sur la transmission du possible dans la précarité, quand on est dans une situation de précarité. Après, j'ai travaillé sur la mémoire immigrée, sur l'exil politique. Oui, oui, je m'en rends compte là en le formulant que oui, c'est quelque chose de très présent. Après, je ne suis pas que obsédée de la mémoire. J'ai d'autres obsessions aussi. Notamment le rêve, voilà, qui pour moi est un peu le pendant de la mémoire.
Et ces textes que vous les écrivez pour qui?
Alors, je les écris pour qui? Je les écris parce que je suis imbibée de vie, que je peux croiser, ou de parcours que je peux croiser. Et donc, du coup, je suis un peu aussi dépositaire de ça. J'ai beaucoup travaillé sur les recueils de paroles, c'est-à-dire des gens que je peux croiser. Et voilà, pour moi, c'est une mission très forte de porter comme ça la parole des gens et la rendre le plus possible et très humblement universelle. C'est-à-dire, dernière obsession que j'ai, c'est comment trouver le commun. Souvent, je dis torturer le commun pour qu'il accepte de vivre. Voilà, c'est une de mes obsessions.
On peut en savoir un peu plus sur ce dernier thème?
Sur le commun, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va être tous ensemble, c'est-à-dire trouver l'endroit où on va pouvoir ensemble se parler d'une même chose, ou regarder peut-être le monde avec des yeux un petit peu nettoyés sur les choses. Ouais, nettoyer les regards, essayer de débarrasser un petit peu, développer la curiosité et débarrasser un petit peu les barrières qui peuvent empêcher parfois le lien.
Il existe ce commun ou c'est une utopie?
J'aime bien l'idée d'utopie. J'aime bien l'idée que ce soit une quête. J'aime bien aussi l'idée de la naïveté, auquel je suis très attachée. Et après, oui, je crois qu'il existe. Pour moi, la poésie, par exemple, c'est une forme de commun. Je revendique très fort. Et souvent, je l'ai rencontré aussi sur ça, les metteurs en scène avec qui je travaille. On a ce commun-là, fondamentalement. C'est-à-dire d'aller vers les autres. Vers le théâtre populaire, c'est-à-dire le exigeant, mais populaire.
Et comment êtes-vous arrivée alors au théâtre d'Anoukis? On est venu vous chercher, on connaissait vos textes, comment ça s'est passé?
Oui, je connaissais Baïja et effectivement on n'avait jamais travaillé ensemble. Je savais qu'elle était dans le théâtre, j'avais vu sa dernière mise en scène. Et elle avait lu mes textes et voilà, elle est venue me demander. Ça a été un très grand honneur pour moi qu'elle pense à moi. En me disant, en me présentant son projet, donc sur les Roms et sur une femme. Et ça, c'est important de le dire, c'est qu'on a décidé ensemble, non pas de faire un travail biographique, je dirais exhaustif, de Papoucha, mais vraiment d'y voir une figure féminine, un parcours de femme, avec des fils qu'on a définis avant que j'écrive, finalement. C'est dans le cadre de la discussion qu'on a défini à la fois le nombre de personnages. Oui. Voilà. Donc je suis partie avec en tête un nombre de personnages, non pas les personnages forcément très définis, mais en tout cas le nombre. Ensuite, cette figure.
Thèmes, ouais.
Oui, puis voilà, ouais, les thèmes, les fils qu'on allait tirer comme ça, c'est-à-dire à la fois chez la femme, ce parcours un petit peu funeste, ou de femme qui veut accéder à des rêves souvent compliqués. Parce que femme, mais pas que. Enfin, je trouve qu'il y avait aussi cette thématique de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-guerre, avec cette utopie portée très haut, cette chute d'idéal aussi, mais qui est plus universelle que ça pour moi. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on va très haut dans un idéal et que finalement la réalité nous rattrape Voilà, donc je crois qu'on s'est retrouvés comme ça sur des thèmes. Et je suis partie en écriture. Et après, je suis venue en résidence et ça, c'était bien parce que c'est aussi quand même une particularité de...
De ton travail.
Ouais, mais ouais, du tien aussi, du coup. c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant une semaine avec l'équipe qui a découvert le texte, qui l'a lu, joué. Et du coup, j'ai pu réécrire suite à ça aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Un petit peu partir aussi de ce que proposent
les comédiens.
Voilà.
Et comment ça se passe, donc, cette interaction entre vous et les comédiens au niveau de l'écriture du texte?
Alors, en fait, là, moi, j'avais écrit le texte entièrement. J'avais besoin de l'entendre. Ça, souvent, j'aime, parce que j'écris vraiment particulièrement dans mon écriture pour les comédiens et pour les metteurs en scène. C'est-à-dire, je ne mets pas de didascalie, par exemple, c'est-à-dire d'annotation pour que le metteur en scène sache où je l'ai situé, où, comment était le personnage, etc. Pas du tout. C'est, je fais une confiance aveugle à la fois aux comédiens et aux metteurs en scène. Et du coup, donc, je suis arrivée avec le texte. Baïja les a fait un petit peu travailler sur des lectures et les a fait improviser sur les situations créées sur chaque scène. Et de là, m'est venue voilà, des choses qui ne me convenaient pas ou que je trouvais plus intéressantes quand les comédiens me proposaient quelque chose. Et donc, j'ai réajusté. Voilà.
Alors, Titane et moi avons assisté à la lecture donc, de ce texte au Millennium. Et on était vraiment, je dirais, frappés et scotchés par cette magnifique écriture poétique, concise. Et on a senti aussi que vous êtes aussi une comédienne. Et on a senti aussi que vous aviez cette habitude d'avoir les mots en bouche. Enfin, on a senti que les comédiens avaient un réel plaisir, puis en même temps une facilité. On sentait que ça coulait. Vous avez cette habitude-là aussi de comédienne, je pense, qui a peut-être facilite un peu votre écriture.
Oui, c'est vrai que dans une autre vie, j'ai été étudiante comédienne. Enfin, j'étais au conservatoire à Bordeaux et j'ai fait beaucoup de théâtre de longtemps. Mais après, j'ai arrêté. J'ai fait des études et voilà. Et c'est très bien. Je ne me considère pas du tout comme comédienne ou autre. Par contre, j'ai gardé cet amour du comédien, cette confiance aussi. Et c'est vrai que je travaille en rythme. J'écris en rythme. Donc très souvent, je peux taper le rythme en écrivant. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi, quand je finis un texte, en tout cas le premier jet, de l'entendre. C'est-à-dire que vraiment il soit incarné par un comédien ou une comédienne.
Et vous pouvez aussi bien changer peut-être le rythme en entendant le comédien ou non, c'est figé.
Alors moi, il y a un rythme global, mais après, il y a des rythmes dans chaque phrase où effectivement, il y en a, ça ne marche pas. Je croyais que ça marchait, mais finalement...
À l'entendre.
À l'écoute, je me suis dit, non, ça ne fonctionne pas, il vaut mieux changer. Voilà, mais bon, il n'y a pas de règle, c'est selon ce que j'entends. Et puis les difficultés dans lesquelles peuvent être les comédiens. Après, moi, j'écris aussi, pas cette pièce-là, mais je peux écrire pour des comédiens, très précisément. C'est en sachant pour quel comédien je dois écrire et je sais... où l'amener. Je travaille souvent avec un comédien qui était très proche des acteurs d'Audiard, et moi j'aime beaucoup l'argot, et donc je travaille énormément l'argot quand j'écris pour lui, par exemple.
Je pensais aussi à ça, justement, Audiard écrivait ses textes en pensant à la personne qui allait le dire.
Ouais. Ouais. Et j'avoue que c'est très agréable, effectivement. Mmh. De toute façon, me comparer à Audiard, je n'oserais pas. Non.
Vous écrivez très rapidement? Ou bien, comment vous prenez l'écriture, un gros travail, un premier jet, puis un gros travail, ou bien vous ne revenez pas trop dessus, à part sur le plateau, comme vous venez de le dire. Comment se passe chez vous l'écriture?
Alors, j'écris très vite. C'est-à-dire, le premier jet va arriver très, très vite. Et ensuite, tout le travail va être mot par mot. Voilà.
Et ça, ça prend un temps
Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est pas...
Et puis, il y a un gros travail de préparation aussi, avant le premier jet.
Ah oui. Oui, oui, avant le premier jet, oui, c'est ça. Après. C'est que moi, par exemple, pour ce texte, moi, c'est vrai que la culture rome, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai rencontré Marcel Courtiade, qui est un spécialiste. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, c'est vrai que ça devient une peau de chagrin quand c'est dans les lignes, mais c'est vrai que j'ai tout... Voilà, je fonctionne comme ça aussi. Il faut que je m'imbibe de toutes ces vies, vraiment. Et ensuite, je passe à l'écriture. C'est vrai que je n'écris pas si je ne sais pas de quoi je parle un petit peu, en tout cas.
Et Papucha a vraiment existé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette femme?
Alors, Papucha, c'est une poétesse rome, polonaise, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ça, c'est quand même un moment marquant de
son histoire.
De son histoire.
Et l'histoire de la communauté.
Oui, tout à fait. Elle est née en 1910 et elle est morte en 1987. Et c'est vrai qu'après-guerre, elle a eu une histoire comme ça, au moment où de l'URSS, il y a eu dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est un mouvement de sédentarisation des Roms. Donc elle a vécu de manière forte cette période. Alors il y a des débats sur Papucha entre plusieurs historiens, etc. Avec Baïja, on a pris le parti de ne pas du tout rentrer dans ça et d'au contraire regarder, avoir un œil vraiment d'artiste. Et je reviens sur tirer les fils de ce qu'on avait envie d'y voir aussi. Donc on ne prétend pas du tout à être des historiens sur ce coup-là. Voilà. Le fait est que Papucha était donc une poétesse qui a fait une rencontre un intellectuel polonais, voilà, qui après-guerre était chargé d'aller visiter les Roms pour connaître leur vécu de la Seconde Guerre mondiale. Et cette personne va rencontrer Papucha. L'entendre réciter des poèmes. Apparemment, c'était une femme qui parlait beaucoup, voilà, qui récitait ou qui chantait, qui pouvait... sur la nature, la pierre, l'herbe, le ciel. Et ça va beaucoup l'intéresser. Et de là, c'est une femme qui écrit, ce qui n'était pas forcément courant. Donc elle écrit, elle est poète rome, et il va décider de travailler avec elle.
Et de la publier.
Dans une revue littéraire de l'époque. Et c'est de là que vient un petit peu le drame de Papucha, où finalement, ce qu'elle écrivait n'avait aucun but direct de manipulation ou autre. Mais comme il y avait ce contexte de sédentarisation, on s'est servi d'elle en tant que femme rome pour porter ce message-là. Voilà. Ce qui lui a valu beaucoup de problèmes dans sa communauté. Où elle s'est retrouvée à demander à la personne en question à ne pas publier, à arrêter de publier ça parce que...
Ça la mettait en porte-à-faux et ça la mettait en grande difficulté dans sa communauté de justifier la publication de ses textes à ce moment-là.
Elle va mettre un point final à cette carrière de poétesse. Elle va arrêter d'écrire et ce jusqu'à la fin de sa vie où apparemment elle aurait réécrit, mais très peu. Oui. Sans confirmation. Donc c'est un peu...
Est-ce que là, on revient au problème, est-ce que c'est parce que c'est une femme que sa poésie s'est arrêtée, ou elle a dû arrêter, ou elle s'est sentie le besoin d'arrêter? Un homme aurait pris le parti d'écrire. C'est toujours... Non, pas forcément. C'était la société elle-même qui a forcé cela plutôt.
Oui, parce que quand même, la femme dans la communauté rome a une place...
Est importante.
Oui, importante, mais aussi une place qui n'est pas du tout égale, c'est-à-dire l'accès à l'école, à l'écriture, etc. C'est quand même déjà un défi
en soi,
quoi. Donc oui, évidemment, son statut de femme a imprégné sa vie. Mais j'ai envie de dire, pour moi, quand j'ai vu un petit peu son parcours à Papucha, c'est dans les 20 siècles qui sont derrière nous, des parcours comme ça, on en a beaucoup.
Elle est universelle, j'allais dire.
Voilà, tout à fait. C'est actuellement les petites filles qui n'ont pas accès à l'école dans plein de pays du monde, et pas si loin, juste parce qu'elles sont nées femmes. Et donc toutes ces difficultés qui peuvent être vraiment associées au fait d'être une femme.
whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
FM 97.1 avec le théâtre d'Anoukis et Baïja Lidawan, Eurial Collet Barquero et Cédric Daniello.
Alors,
nous venons d'entendre Arizona Dream par Goran Bregovic et là aussi votre choix.
Oui, alors Goran Bregovic qui a du coup composé la musique du film Arizona Dream. Moi, ça m'intéressait parce que pour ceux qui ont vu le film, voilà, c'est un très bon film de Kusturica. Et Kusturica, je trouve, a transposé et a mis beaucoup de poésie dans la société d'Europe centrale, en tout cas dans les films qu'il a fait sur cette société. Et ça m'intéressait tout d'abord parce que j'apprécie ses films, et également parce que c'est une façon de changer l'image un peu folklorique qu'on peut avoir. Voilà, l'image des Roms et des Tziganes, elle est soit folklorique avec une robe et un tambourin, et elle est très jolie, très belle, et elle, on l'aime bien, soit elle est dans un camp, elle est misérable, et ça, on l'aime pas, on la veut pas. Et pour moi, Kusturica, il dit que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà.
Alors, où peut-on, et chez quel éditeur peut-on trouver les textes de Papoucha?
Alors, il y a deux traductions. Actuellement.
En français, oui.
En français, donc il y a celle de Marcel Courtiade.
Dans un ouvrage qui va s'appeler Route d'Antan et aux éditions L'Harmattan.
Il me semble que c'est les éditions L'Harmattan.
Et les textes ont également été retraduits par Jean-Yves Potel. Et là, on va les trouver dans la revue Études Tzigane qui est publiée par la FNASAT. Et l'ouvrage s'appelle, il me semble, Papoucha.
Voilà. Publié du polonais.
Voilà.
Et nous insistons fortement pour que Rial puisse éditer cette pièce, si on peut appeler ça une pièce, ce morceau de poésie.
Merci beaucoup.
On va... Appel. Cédric, Daniello, vous faites partie des comédiens. Vous êtes quatre, en tout cas nous vous avons vu à quatre. Vous pouvez déjà citer vos partenaires comédiens.
Tout à fait, on a Léonard Stefanica, Lucille Duplat et Maud Ardier, avec qui donc je travaille sur ce texte.
Avec donc deux hommes, deux femmes, une conteuse.
Une conteuse, donc qui ne rentre pas en interaction directe avec nous. On a le personnage de Sénéca qui représenterait du coup Papoucha, qui est joué par Maud Ardier. Léopold, qui est joué par Léonard, qui jouerait Fissowski dans la réalité. Et Arthur, qui serait interprété par moi-même, qui lui représenterait Julien Tovim dans la réalité. Voilà.
Et comment vous êtes-vous retrouvé autour de ce texte? Est-ce que ça a été difficile, ce travail?
Comme on disait tout à l'heure, les textes de Rial sont très, très agréables à dire et à entendre et à lire. Donc le travail en lui-même n'est pas difficile sur le texte. Après, sur le personnage, c'est autre chose. Mais sur le texte, on n'a aucun problème.
C'est de rentrer dans ce personnage.
Voilà. En tout cas, pour moi, pour le personnage, ce qui est difficile, c'est que Arthur est quelqu'un de mûr, qui a vécu la guerre, etc. Moi, j'ai 21 ans et je sors d'une école de théâtre. Donc, voilà, c'est...
Et c'est un homme du parti. On parle beaucoup, on parle du parti aussi dans cette pièce.
C'est ça, c'est un homme du parti.
Disons que pour moi, c'est un homme qui a connu l'idéal. Dans l'époque dont on parle, c'est le Parti communiste sous l'ère soviétique, donc dans les républiques socialistes. Le personnage d'Arthur, c'est un personnage d'un homme qui est proche du parti, mais qui surtout souhaite un changement radical de sa société et est à un moment de l'histoire où il croit que c'est possible et où il va faire avancer cette société dans ce sens-là, jusqu'au moment où son idéal va chuter. Et il va affronter la réalité, d'une réalité qu'à un moment sur lequel on accepte de biaiser ou de jouer avec. Et je trouve que c'est un très beau personnage, et que Cédric n'aura pas de mal à ce personnage de composition, mais tout ce travail.
J'ai pas dit que j'aurais pas de mal, j'ai dit que ça aurait été difficile. Voilà.
Est-ce qu'on peut vous demander une lecture, puisqu'on parle du comédien, on attend sa voix. Donc oui, on peut enchaîner les deux. Là, on a quelques...
Un jour, dans longtemps, à moins que ce ne soit plus tôt, tes mains ramasseront mes chants. Je rêve ou quoi? D'où viennent-ils? Puis tu te souviendras et tu demanderas légende ou vérité. Puis à nouveau, tu oublieras mes chants et tu oublieras tout. Donc c'est chanson de Papoucha. Voilà.
Et puis un autre... Oui.
J'ai choisi ce texte donc, de Papoucha qui est dit dans le spectacle Bartholodrome qui sera joué le 5 avril au Millennium. Pourquoi ? Parce que je trouve un peu prémonitoire. Et tu me diras si je me trompe, Rial, mais dans le travail d'écriture, il y a pour moi également un peu une bouteille jetée à la mer. C'est-à-dire qu'une fois que la personne n'est plus là, bah, son texte perdure. Et on ne sait pas qui est-ce qui va ramasser ses chants et qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais on laisse une trace, on laisse une sorte de déco. Alors que dans le travail qu'on fait avec Cédric de spectacle vivant, notre travail s'arrête à la tombée du rideau. Ce qu'on a fait a disparu et éphémère, ce qui a également toute sa beauté. Et le second texte que je vous laisse découvrir.
Creusez profondément la Pologne, fouissez profondément Varsovie. Sous la terre durcie, il y a un cœur tendre, un cœur recouvert de pierres noires. Vous trouverez une tzigane ensevelie avec ses chants. Si vous soulevez son linceul, vous la verrez enveloppée de poèmes. Terre, toi qui recouvres une poétesse, une des nôtres, tu sais peut-être si en son cœur il y a encore beaucoup de chants? Oui, il abonde de chants, ce cœur si sensible, ce cœur pétri d'authenticité rome, c'est ici, c'est là-bas. Partout, ton nom est sur nos lèvres. Donc c'est un poème de Kouchtim Passakou qui s'appelle « Authentique fille des plaines ».
Merci. Et donc ce choix, vous disiez?
Alors ce choix, Kouchtim Passakou est un poète rome qui a du coup dédié ce poème à Papoucha. C'est un texte sur lequel on a travaillé en recherche, parce que pour moi il y a tout un processus avant d'arriver au texte de Rial, au spectacle fini, voilà, où les comédiens se nourrissent d'autres textes. Et sur le fond, il me plaît parce qu'il dit un peu n'oubliez jamais vos artistes, n'oubliez jamais ceux qui ont dit, ceux qui ont porté, ceux qui ont voilà. Et ce n'oubliez jamais, il fait un écho avec notre travail.
C'est encore en rapport avec la mémoire de Dorial.
Peut-être.
Vous êtes faites pour vous rencontrer toutes les deux.
Ça doit être ça.
Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui passe, ouais. Forcément. Autrement, on ne peut pas travailler ensemble. Enfin, je pense.
Vous êtes toutes
une
les
question
deux
d'affinité.
Porteuse de mémoire.
Sûrement, oui. Je pense qu'avec Rial, on s'est rencontrés d'abord sur des idées, sur des valeurs, sur des combats. Et après coup, on a découvert que l'une et l'autre, pour porter ces combats, pour porter cette parole, on avait choisi la voie du théâtre. Et Rial, du coup, est venu voir mon travail. Je suis allée lire son travail. Et c'est assez étrange parce que, du coup, voilà, je lui ai fait cette commande qu'elle a eu la gentillesse et le plaisir d'accepter, qui a vraiment été pour toute l'équipe un cadeau. Et après, quand Rial est venu en résidence, ça s'est passé extrêmement simplement. Alors que, c'est une résidence, c'est un équilibre d'un groupe. Et ça a été, pour toute l'équipe, ça a été comme une évidence que celle qui avait écrit ce texte à Paris avait toute sa nécessité à être là avec nous dans l'Isère.
FM 97.1 avec nos invités du théâtre d'Anoukis, Baïja Lidawan, Eurial Collet Barquero, Cédric Daniello. Nous venons d'entendre Bat Prabad dans Ben Hora. Explication de texte, Baïja.
Alors, explication de musique. Ce morceau, donc un peu électro, me plaît beaucoup parce qu'il ne place pas la musique tzigane ni dans le violon tzigane, ni dans le jazz, ni dans le flamenco. Il le place dans une musique actuelle, déjà, dans un style différent. Et également pour moi, alors, le spectacle Bartalodrome, il est composé avec une grande part de composition musicale sur plein de morceaux qui sont de styles très différents. Et ça, on le revendique parce que pour nous, c'est une façon de parler de ce peuple, de dire qu'il a une culture en mosaïque, c'est-à-dire qu'il a une culture qui touche et qui traverse toute l'Europe. Et donc, on ne peut pas l'associer à une image, mais plutôt à des images et donc à des styles musicaux. Voilà.
On revient à l'universalité.
Tout à fait.
À chaque fois.
On s'en éloigne jamais beaucoup.
Alors, Baïja et Rial, quels sont vos projets ?
Ils sont multiples. Le premier projet, à la suite de Bartalodrome, qui du coup va se jouer le 5 avril, c'est d'attaquer vraiment la création du texte de Rial, qui s'appelle « Quand ma main rêve, elle se voit porter le monde ». Et cette création va passer par un travail de lecture qu'on souhaite donner afin qu'un maximum de professionnels voient en fait cet objet poétique, universel, et s'intéressent au travail de la compagnie. Voilà.
Ça, c'est le futur très proche. Très proche.
Le futur très lointain, il est fait de plein de rêves, encore. Et les rêves, on n'ose jamais vraiment les nommer de peur qu'ils s'envolent.
On ne dit rien. Rial, et pour vous, donc toujours l'écriture.
Alors oui, toujours l'écriture à Paris, parce que parallèlement, je travaille avec une metteuse en scène, Zmind Hachkimi, depuis des années. Et voilà, je suis aussi sur des projets... très très concret, bien loin des rêves, dans les banlieues parisiennes. Et notamment, en ce moment, on finalise un projet sur les violences faites aux femmes. Voilà, où on invente des contes avec ces femmes et on enregistre un album. Et voilà, mon avenir proche, c'est juin, avec ces femmes qui vont devenir conteuses dans des bus. Voilà.
Et ça s'est fait également, ce travail en amont, en communauté? Ou c'est une idée, vous portez l'idée et vous allez la déposer, ou bien c'est comme avec Baïja, un travail commun?
Oui, c'est pareil. Avec Smorda, on a fonctionné comme j'ai fonctionné avec Baïja, c'est-à-dire c'est nos envies, nos combats, c'est assez ouais. beau, je trouve. C'est plutôt ça, oui. C'est ce qu'on avait détecté, ce qu'on avait envie d'aller fouiner, et voilà. Donc on s'est intéressé aux femmes spécifiquement. Donc je me retrouve avec deux projets en parallèle sur cette thématique, mais pareil que Baïja, ce n'est pas ma seule thématique, mais il est vrai que là j'en ai deux en parallèle sur les femmes.
Et vous, Cédric?
Moi en tout cas pour 2014 et 2015, du coup j'ai Anoukis et une autre compagnie qui s'appelle Compagnie Théâtre du Bruit. Voilà, j'ai plusieurs créations sur chacune de ces compagnies. Et un avenir un peu plus lointain, je tiens encore à me former dans le métier. Et après, encore plus lointain, on verra.
À vous voir partout, voilà. À l'affiche. Et vous, ce second théâtre du Bruit, vous avez dit,
c'est ça.
Il se trouve dans les environs.
Le siège social est à Lyon, voilà.
À Lyon.
C'est une compagnie que j'ai créée avec des amis, donc qui a vu le jour en septembre 2013. Là.
Et là,
donc, c'est tout récent.
Et ce besoin, à vous, puisqu'on a demandé à Baïja, pourquoi ce besoin de ce théâtre d'Anoukis et le vôtre?
Pour le besoin de théâtre que j'ai depuis que je suis tout petit, et pour une fois que ça peut se réaliser et qu'il y a des projets qui sont faisables, et ben je fonce, tout simplement.
Et vous allez chercher les projets, vous les aviez déjà en tête?
La plupart du temps, je ne suis pas un meneur de projets. La plupart du temps, les projets viennent à moi, j'ai envie de dire. J'ai des amis qui ont des idées que j'ai envie de suivre et je prends plaisir à les suivre. Voilà.
Alors, longue vie, bon vent à vous tous. On a envie de vous contacter, on a envie de vous voir. Pour le moment, le plus facile à ne pas oublier Millennium à l'île d'Abo, mais en plus, Baïja, pour vous.
Alors, le théâtre d'Anoukis est joignable par mail, avec une adresse mail, théâtredanoukis@gmail.com. Et sinon, le Millennium à l'île d'Abo, qui nous connaissent très bien, avec qui on partage et beaucoup de choses, et dont on profite de ce temps d'antenne pour les remercier chaleureusement, tous.
Merci. Et vous, Uriel, on vous contacte ?
Par le biais du théâtre d'Anoukis.
D'accord.
Non, mais par Facebook, j'imagine. Il me semble. Ouais, oui, Uriel, Colé Barquero. Si vraiment, pas de souci.
Cédric ?
Alors, moi, je dois être la seule personne qui n'est pas qu'on ne peut pas prendre contact par Facebook. Donc, ce sera par Anoukis, soit par la compagnie du théâtre du Bruit, soit par mon adresse personnelle. Si vous voulez, c'est daniello.cedric74@orange.fr. Voilà.
Un grand, grand merci à vous trois. Merci, déjà merci d'avoir merci. Pu vous voir et vous écouter dans cette lecture et puis de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. N'hésitez pas à faire suivre vos informations. Ça sera avec grand plaisir qu'on les mentionnera. Merci Daniel.
Merci Tidane.
Merci Dominique. Et puis merci Laurent. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.
Merci. Merci.